Fonds commun est un organe de presse problématique, suscitant des actions collectives de création dans le champ social et politique. La troisième livraison de Fonds commun, numérotée 012, vient de paraître et sera disponible pendant toute la campagne électorale de la République française. L'artiste Stéphane Lemercier nous en propose une relecture en 18 vignettes, inspirée du 10e chapitre de l'Ulysse de James Joyce.
Dans le chapitre 10 de l'Ulysse de Joyce, il s'agit de 18 vignettes qui définissent un paysage urbain, le paysage de la ville de Dublin. Et ces 18 vignettes forment ce qu'on a appelé le Wandering Rocks, les rochers flottants. Il s'agit donc d'une topographie, d'une dérive urbaine. La ville alors est considérée comme un peu le paradigme des activités humaines. Tout comme le dernier numéro de Fonds commun, composé lui aussi de nombreuses vignettes, tous ensemble alors ne prend pas d'ess, c'est l'ensemble des singularités, aussi extrêmes soient-elles, qui révèlent, qui relèvent le Fonds commun. 18 vignettes qui, épinglées dans leur vitesse d'apparition, du très lent, il y a par exemple une carte postale des années 20, au très rapide, un dessin d'enfant, lutte contre l'emportement généralisé. Seule la documentation peut rendre compte d'une telle expérience. Comme disent nos amis anglais, il s'agit de « a protest against forgetting », une manifestation contre l'oubli. Qu'il s'agisse d'images trouvées, d'images anonymes, d'images s'inspirant d'autres images, dans ce grand flux migratoire des images au sein des pratiques contemporaines. Et toutes ces images posent une question certaine, qui est l'auteur? L'auteur triche, il revêt les masques multiples de l'artiste, du poète, du graphiste, de l'iconographe, de l'archiviste, et par extension de l'archéologue, du flâneur, du manifestant.
Vignette.
Première vignette. Dans cette perspective, le chat de la première page est exemplaire. Premièrement parce qu'il s'agit d'une image trouvée d'un chat perdu. Deuxièmement, parce que l'organisation de l'image nous fait penser à un tableau du Caravage, le tricheur. Donc le chat triche, le chat penche, et puisque le chat penche, ça donne du sens. Il s'agit d'une image amateur terriblement professionnelle en fait, terriblement composée. Autre image penchée.
Vignette.
Vignette numéro 2. Celle d'Albrecht D. Qui est Albrecht D? Peu connu en France, Albrecht D est né en 1944 en Allemagne. Il a dans les années 60-70 été le responsable d'une maison d'édition, Reflection Press, avec qui il a réalisé de nombreux livres avec des personnes comme Raoul Haussmann, André Taute, etc. Il a réalisé un 30 cm avec Joseph Beuys dans les années 70, suite à une performance à Londres. Et surtout, il a été très proche du groupe Throbbing Gristle à la fin des années 70. Il a été un peu le mentor de Genesis Peoridge. C'est lui qui l'a initié d'une certaine manière à l'art de la performance. Mais surtout, Albrecht D, c'est quelqu'un qui, depuis de nombreuses années, use et abuse de la photocopieuse pour des affichettes, des fanzines, regroupées sous le titre générique de « Violence permanente » pour des couvertures de cassettes. Là, il s'agit d'une photocopie où son corps s'inscrit de façon presque fantomatique. Alors, il s'agit de documenter l'invisible, la trace qui penche une fois de plus vers l'invisible, ou plutôt il s'agit de documenter la somme des traces qui fourbissent l'étape ultime du visible. Vignette 3. Là encore, il s'agit de documenter une trace. Il s'agit d'une photographie d'Arnaud Vasseux. Un bouillonnement semble soulever l'asphalte. Il s'agit d'une photographie de sculpteur qui nous fait penser parfois aux photographies de Gabriel Orozco. Là, au contraire, il s'agit d'une inscription claire. Il s'agit de désigner un agencement sculptural. L'action du soleil, l'action de la chaleur qui modifie la qualité de l'asphalte. Ce qui est inerte alors semble s'animer. S'agit-il d'un asphalte jungle ? Les surréalistes se sont peu inspirés de l'informe. Et surtout en 1929, au moment où la révolution surréaliste est devenue le surréalisme au service de la révolution. Paradoxalement, donc, à partir de ce second manifeste, le surréalisme se réifie. Le surréalisme devient une chose sûre, une chose assurée, une chose conçue par des poètes qui se veulent militants jusqu'à l'aberration. Citation. L'acte le surréaliste le plus simple consiste, revolver au poing, à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu'on peut, dans la foule. À la même époque, en 1929, Bataille, avec sa revue Documents et son iconographie aberrante, rue au contraire dans les brancards. Il y a toujours beaucoup de cadavres exquis dans les armoires photographiques. Il y a toujours beaucoup de règlements de compte qui perdurent jusqu'à aujourd'hui dans la culture française. Des règlements de compte photographiques, mais pas seulement. L'école formaliste regroupée contre l'informe libertaire. Justement, une lecture, vignette
4,
page 9, au hasard, extrait d'agraphie, note, de David Lespiot. Deux mots tombent, tunnel de végétation fraîche avec trouée de lumière, un homme vu de dos applique un revolver contre sa tempe, voix qui travaille contre la parole, lui substituant à l'heure qui l'a fait s'effondrer. Fait un rêve blanc comme un alcool, le rêve blanc de personne. Sa chambre donne sur un jardin qui donne sur une flaque. Un morceau de jungle penché au-dessus d'une surface oblique de boue, grande comme un immeuble. Cette entité, une entité étonnante pour sa masse brute. L'ombre des feuillages qui bougent sur le sol respire en même temps qu'eux. Page 10. L'affiche du film Hors la loi. On a beau être hors la loi, on peut malgré tout être frappé du sceau de la palme, celle des poètes, de l'Académie ou bien du Festival de Cannes. Y a-t-il là le désir de se ranger des voitures, de profiter d'une vie pépère, à profiter de son pactole ? Il s'agit bien sûr d'une photographie manipulée. Reste ici la photographie, le titre du film et la palme. Une photographie manipulée égale mensonge ou vérité plus. Vignette 6, pages 14 et 15. Moi, personnellement, j'y vois un épi de maïs. L'épi de maïs de William Faulkner dans Sanctuaire. Chaleur, violence, espace familial réduit à rien, une cuisine, une grange. Non pas une simple image documentée, mais aussi sa légende, qui nous dévoile le sens caché. En fait, il s'agit de 330 chewing-gums couvrant une tige de fer en béton. Comme dans ce jeu, un rien désuet présent jadis dans les quotidiens, à la place de « il fallait voir ». Donc, à la place de l'épi de maïs de William Faulkner, il fallait voir 330 chewing-gums couvrant une tige en fer à béton. C'est une façon de travailler qui me fait songer à 1981. À la place d'un ministre communiste, il faut voir le programme commun. La légende est essentielle. Elle ôte toute possibilité d'erreur. Elle envisage d'emblée l'espace discursif et les commentaires. Donc, c'est de cela dont il s'agit. Des chewing-gums déposés sur un fer à béton de la façade du mémorial de la Shoah, pas très loin du Vieux-Port, à Marseille. Retour du réel, Inferno Simple. Vignette 7. Pierre Alféri, Alfred Cubine. Qui est Alfred Cubine ? Lecture extraite du roman unique d'Alfred Cubine, L'autre côté. Chaque page du dernier numéro de La Voix n'était imprimée correcto et fourmillée de phrases inachevées et d'une légion de fautes d'impression. La dernière page, où paraissaient habituellement des histoires comiques, manquait complètement. Il ne servait à rien de regimber. Cet état de complète inconscience a bien pu durer 6 jours, c'était du moins ce que le coiffeur était parvenu à deviner en calculant ce temps à la longueur des poils de barbe de ses clients. Pierre Alféri a reproduit le portrait d'Alfred Cubine, auteur allemand né à la fin du XIXe siècle et qui a profondément influencé le romantisme noir. Le dessin dans Pierre Alféri hésite. Dans l'histoire du livre d'artiste, d'ailleurs, le dessin hésite toujours, il a une place à part. Au contraire de la photographie, qui lorgne toujours historiquement du côté de la presse, du côté de la page imprimée, et au contraire du texte, qui s'installe franchement dans les pas cadencés de l'activité poétique. Le dessin, soit le facsimilé, restituer la qualité du papier, comme Dieter Roth, ou le dessin virtuel, généré par ordinateur, qui a partout sa place, puisque n'est nulle part. Ce qui nous amène à
Vignette 8.
L'évidence d'Esther Salmona. C'est l'échappée de l'ombre grâce à l'ombre et à autre chose. Parfois, c'est dans l'absolue netteté de l'évidence, parfois dans la cassure des prismes, d'autres fois dans la dilution d'une rosée de sel. C'est dans les rêves des carrelages, des douches, des piscines, derrière un lichen, et puis plus rien, la roche seule. Ça reste quand les gens s'en vont, ou s'évanouissent, ou se renforcent, en fonction des arrivants et de leur poids d'absence. Ça colle au mur sous les tapisseries, alors ça peut pendre aux parois des dents creuses. L'inscription. Comment le corps s'inscrit-il comme élément typographique dans l'espace de la page ? Vignette 24 figures identiques. Mais pas vraiment. 4 figures génériques. Générique de fin, générique de début. Quand le nom des acteurs principaux nous est donné, le générique de fin, c'est plutôt pour les techniciens dont il s'agit, pour les anonymes en quelque sorte. Anecdote, la dire. Celui que tout le monde semble reconnaître sans jamais pouvoir le nommer. En l'occurrence, il s'agit de 4 photographies d'un même individu prises dans la rue, dans la grande tradition des photographies d'après-guerre. Non, ceci n'est pas un Céline Duval. Il s'agit de 4 photographies vivantes, désignant 4 mouvements dans le temps et dans l'espace, allant valise à la main. Les panneaux signalétiques semblent le confirmer, allant de Metz à Strasbourg. Vignette paysage. Énumération des légendes. 10. Arbre, page 25. Maki, Mitaka, Tokyo, Japon, 2006. Captation, page 26. Fabien Lerat, rue Bélanger, Paris 10e, 16 mars 2011. Agencer l'improbable, page 27. François Deck, Shanghai, 2010. Des travaux, page 28. Eustache B, Marseille, 2010. Ce qui nous ramène à une autre lecture du paysage, celle de Joyce, justement, dans le chapitre 10. Almidano Artifoni passait par Hall Street et Sewell's Yard. Derrière lui, Cashel Boyle O'Connor, Fitzmaurice, Tisdale Farrell, balançant une canne parapluie cache-poussière, évita le bec de gaz devant chez M. Law Smith. Et après avoir traversé, longea Merrion Square. Derrière lui, à une certaine distance, un jeune aveugle tâtait le terrain en avançant le long du mur de College Park. Cashel Boyle O'Connor, Fitzmaurice Tisdall Farrell alla jusqu'aux glaces riantes de M. Lewis Werner, puis fit demi-tour et arpenta de nouveau Merrion Square en balançant sa canne parapluie cache-poussière. Au coin de chez Wilde, il s'arrêta, lança un mauvais regard au nom d'Elie affiché sur le Metropolitan Hall, un mauvais regard au parterre lointain du Duke's Lawn. Son monocle irrité flamboyait en plein soleil. Vignette 11. À bout de souffle. 11. À bout de souffle. S'effondrer contre un mur. À bout de souffle, s'effondrer contre un mur. D'avoir trop lu Marcel Mauss, de n'avoir rien compris à Derrida, d'être terrifié par les photographies d'Abby Warburg représentant le rituel du serpent chez les Indiens Hopi. Fin de programme. Cette photographie représente un Indien mexicain après un rite initiatique. I want to wake up in this picture which never sleeps. Je veux m'éveiller dans cette photographie, dans cette image qui ne dort jamais. Parenthèse justement. Allez voir Shame, ne serait-ce que pour la scène où l'actrice Carey Mulligan de chez Buck Mulligan, interprète justement cette chanson de Liza Minnelli, Frank Sinatra, Sid Vicious, New York, New York, je ne sais plus. Et puis sur la bonne page, un vélo sans roue auquel il manque le guidon.
12.
Plus sérieusement, disons que l'inscription photographique au sein du continuum des images nous enseigne une chose. Et c'est Herbie Warburg justement qui souligne. Il n'y a pas d'image seule. La plus abandonnée d'entre elles, la plus recadrée, la plus pixelisée, celle qui possède la moindre définition, s'appuie toujours sur une autre image, absente, néanmoins lumineuse, de la persistance des lucioles. Au contraire de l'image médiatique, dont l'exposition n'est rien d'autre que la persistance d'un mauvais rêve, d'une conscience douloureuse. Vignette 13. Je lance un appel. Le Mercier pillé par les singes. Recherche toute forme de reproduction.
Vignette 14.
La seule double page pensée à deux. Pascal Peuillet, photographie Goria versus Gloria. Ça marche pas, ils sont déjà trois. C'est un couple dans la vie, mais pour fond commun, ils sont trois. Ça se complique. Idem, page 45. Pierre-Olivier Arnault. La seule photographie, ici l'auteur est crédité, reproduisant une photographie imprimée dans un magazine, mais pas seulement. L'herbe alentour, les feuilles mortes. Bon, de plus, le modèle de la photographie est anonyme. On reconnaît seulement qu'il s'agit d'une jeune femme et qu'elle possède une sacrée paire de jumelles. Métaphore de cet échange sibyllin. 15. Vite, ah, du bon de l'art contemporain. Explication de texte à l'usage des jeunes artistes. De la résidence utile chez Monsieur Bricolage. Espace de travail, frais de production et monstration idoine. La boucle est bouclée, économie zéro, empilement des compétences, optimisation. Justement,
vignette 16.
Des compétences politiques, des empilements des enjeux de la représentation politique, du détournement qui donc ne saurait mentir. Page 50, une carte postale de Tarnac, la rue principale. Page 51, une citation. Toute terreur est justifiée au regard de la société qui pourra en émerger. C'est une des leçons de la Révolution française, non ? Page 52. Une architecture révolutionnaire à la Étienne Boulay, justement. Un carré, un rond, un triangle superposé, sans qu'on sache quelle forme est privilégiée. Construction autoritaire ou structure non hiérarchisée. Un logo post-historique, somme toute. Page 53. Le maréchal Pétain. Photo trouvée. J'adore cette histoire française. On trouve toujours les photos du maréchal Pétain, presque par hasard. C'est un coup à relire, justement. Ah, les orateurs de café, nous sommes tous coupables, c'est entendu. Nous avons tous cultivé en nous d'affreux défauts. Nous avons tous commis de grands péchés. Mais les bavards et les phraseurs sont, à mon avis, les plus coupables. Et c'est sur l'abus de la parole que devra porter d'abord notre effort de correction. C'est le régime de la parole qui nous a fait descendre où nous sommes. C'est par une cure de silence qu'il faudra entreprendre l'œuvre de notre guérison. Vignette 17. Et puis la franchise, enfin. L'histoire de la photographie. Est-elle celle de la franchise, de la prise de soin? Non pas prise de vue, mais prise de soin. Dos à dos, mes deux photographies préférées. Il me faut donc deux exemplaires de fond commun pour les apprécier ensemble. Ou alors tourner très vite les pages au risque de faire s'envoler le pigeon de Jørgen Lampert ou de renverser les bouteilles de Jean-Luc Moulin. Jørgen Lampert n'est pas très connu en France et malgré tout, il s'agit du photographe allemand le plus intéressant à l'heure d'aujourd'hui. Quant à Jean-Luc Moulin, on ne le présente plus. Je décris l'image. Il s'agit de deux bouteilles, jus de dos, si tant est qu'on puisse voir des bouteilles de dos, représentant à gauche une bouteille d'huile Puget et à droite une bouteille de liquide vaisselle. Mais surtout, à travers la bouteille de liquide vaisselle apparaît le numéro du centre antipoison en guise de colophon. C'est très important que le numéro du centre antipoison apparaisse systématiquement dans toutes les revues et dans tous les magazines contemporains. Vignette numéro 18, la dernière, avec la couverture de Claude Hortzmann, on revient au chat de la page 3, d'une certaine manière, le fameux chat qui penche. Observons. Cette photographie de Claude Hortzmann représente un paysage urbain, un espace modélisé. Est-ce Dubaï, Moscou, Marseille? Non, pas du tout. Si l'on retourne la photographie, on se rend compte qu'il s'agit tout simplement d'un aspect du paysage urbain marseillais tel que les 30 investisseurs mondiaux les plus importants actuels, cite la Provence, tentent de le modifier. La ville verticale. Mais le problème, ça penche toujours. Horizontalité, archéologie, recensement. Pas de miracle. Sans image. Keine Wunder ohne Bild.
Écoutiez Stéphane Lemercier dans une relecture du numéro 012 de Fonds Communs, organe de presse problématique, diffusé pendant la campagne électorale de la présidence de la République française. Vous pouvez le trouver à Marseille, au Parc de la Plaine, au Grand Terrain, 8 rue Vian, ou à l'atelier ici, 78 rue Jean de Bernardy, et à Grenoble, au train fantôme, 23 rue de Vizille. Prochain rendez-vous public, le 11 février au train fantôme à Grenoble, le 24 mars au Grand Terrain, à Marseille, et du 22 avril au 5 mai, à la Galerie du Tableau. Plus d'informations, www.fondscommun.free.fr.